Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes et nous allons considérer le psaume 51. Psaume 51. Et voici la parole de Dieu. Au chef des chantres, un psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui. Après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Et jusque-là, la parole de Dieu. Certains chapitres dans la Bible sont célèbres pour des thèmes particuliers ou pour des doctrines, des vérités qui sont mises en avant. 1 Corinthiens 13, par exemple, est connu comme le chapitre de l'amour. Hébreux chapitre 11 est célèbre pour sa galerie de portraits d'hommes et de femmes de foi. Le psaume 51 est connu comme la prière classique de repentance. Et l'entête nous dit, les premiers versets nous disent que ce psaume a été écrit par David après que le prophète Nathan soit allé vers lui et l'a confronté pour son péché d'adultère avec Bathsheba. Et en 2 Samuel 12, où nous avons le récit de cette rencontre, David a répondu à Nathan en faisant ce que Dieu nous appelle à faire quand nous sommes mis face à notre péché. Et David a répondu à Nathan en 2 Samuel 12, verset 13, « J'ai péché contre l'Éternel. » Parce que ce n'était pas au prophète Nathan que David avait besoin de se confesser, mais bien à Dieu. Et ce psaume 51 rapporte cette prière de David. La repentance, c'est le vilain petit canard dans la famille de la doctrine chrétienne. On la néglige, on ne la désire pas, on ne l'apprécie pas. On est impatient de parler de la grâce, du pardon, d'autres thèmes apparemment plus positifs et on laisse de côté très souvent la repentance. Certains vont même jusqu'à considérer la repentance comme une offense légaliste à la grâce de l'Évangile. Mais la repentance est si nécessaire au salut, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même commence à son ministère en parlant de repentance. En Marc 1, versets 14 et 15, nous lisons « Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La confession de Westminster dit que la repentance est d'une telle nécessité pour tous les pécheurs qu'aucun ne peut, sans elle, s'attendre au pardon. John Colquhoun, dans son livre « Qu'est-ce que la repentance selon la Bible ?» publié chez Europress, cite Tertullien, un père de l'Église, qui a dit « Je ne suis né pour rien d'autre que pour la repentance. » Mais qu'est-ce que la repentance? En termes simples, la repentance, c'est le fait de se détourner du péché et de se tourner vers Dieu. La repentance et la foi sont unies de manière inséparable. Jésus lui-même a dit « Repentez-vous et croyez, croyez à la bonne nouvelle ». Un auteur l'explique de cette façon, il dit « La foi ne peut exister là où il n'y a pas de repentance ». Je ne peux pas venir à Christ dans la foi sans me détourner du péché dans la repentance. Ce sont les deux faces de la même pièce, celle de l'appartenance à Jésus. La repentance est donc une question importante pour le croyant. Et ce psaume est un guide très utile. Et le psaume 51 nous présente quatre points essentiels au sujet de la repentance. La repentance exige la confession du péché. La repentance repose sur la miséricorde de Dieu. La repentance trouve la purification dans le sang de Jésus-Christ. Et la repentance produit une nouvelle obéissance par la puissance de l'Esprit-Saint. Premier point, donc, la repentance exige la confession du péché. Si David, dans les versets 3 à 4, parle de son besoin de pardon et de purification, il donne dans les versets 5 et 6. Et il explique pourquoi. Verset 5, « Car je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Cette déclaration offre une confession classique du péché quand David admet sa culpabilité devant Dieu. Beaucoup de criminels sont désolés d'avoir été attrapés, d'avoir été pris. Alors que la repentance signifie que l'on est désolé pour le péché lui-même, pas pour le fait d'avoir été pris, mais pour le péché lui-même et pour le mal qu'il a causé aux autres. Et donc pour confesser le péché, nous devons savoir ce qu'il est. Et dans les cinq premiers versets, nous avons trois mots. David utilise trois mots différents pour présenter différents aspects du péché, de sa nature. Tout d'abord, il a le mot qui est traduit par « transgression », versets 3 et verset 5. Et ce mot signifie « franchir une limite » ou « enfreindre une règle ». Jules César a transgressé, par exemple, quand il a pris son armée pour franchir la rivière Rubicon. Il est ainsi devenu un « hors-la-loi » aux yeux de Rome, en franchissant la ligne qui était interdite. Et nous avons transgressé contre Dieu, en n'obéissant pas à la loi. Et l'apôtre Paul nous rappelle en Romains chapitre 3 que nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Le deuxième mot que David utilise est le mot qui est traduit par « iniquité ». Et cela veut dire perversion ou corruption. Et David souligne même au verset 7, on a ce mot au verset 4, mais David va aller au verset 7, souligner que sa nature est dépravée et elle l'est depuis le moment de sa conception. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Et le troisième mot lui-même est péché. On l'a aussi dans les versets 4 et 5. C'est un mot qui veut dire qu'il manque quelque chose ou on manque la cible. David réalise qu'il n'est pas l'homme qu'il aurait dû être. Et l'apôtre Paul, dans ce chapitre cité tout à l'heure, Romains chapitre 3, applique cela à tout être humain. Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il manque la cible, il manque quelque chose. Quand on parle de confesser notre péché, ces trois idées sont impliquées. Il y a la transgression, il y a la perversion, la corruption, il y a le fait de manquer la cible. On doit admettre les choses qu'on a mal faites, les façons spécifiques dont on a transgressé la loi de Dieu. Et le souci de David de confesser sa transgression se voit au verset 6, où il admet qu'il a violé la justice de Dieu, qu'il a offensé la sainteté de Dieu. « J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » David ne nie pas qu'il a péché contre Bathsheba ou contre son mari, Uri. Mais ce qui l'attristait le plus, c'était cette connaissance qu'il avait péché contre Dieu. Il avait déshonoré Dieu. Il avait mis en colère Dieu. Et Dieu avait raison de le juger. Et David le reconnaît, il le dit dans la suite du verset 6, « En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » C'est une chose de dire « J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. » Mais la véritable repentance dit « J'ai offensé personnellement Dieu en violant sa loi. » Et beaucoup s'arrêtent avant la vraie repentance parce qu'ils n'admettent pas leur culpabilité. Ils se privent ainsi de la bénédiction renouvelée de Dieu. Ils rejettent le blâme, ils attaquent ceux qui les accusent. Mais David montre que lorsque notre péché est découvert, que ce soit par nous-mêmes ou que ce soit par quelqu'un d'autre, nous devons admettre, comme David le fait, « J'ai péché contre Dieu et Dieu a toutes les raisons de me condamner. Mes actions étaient mauvaises et elles doivent être jugées. » Étant donné que le péché comprend le fait d'avoir une nature corrompue, de tomber en deçà de la marque de Dieu, ceci devrait également faire partie de la confession. Et David prie au verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. » Cela ne suggère pas qu'il y avait quelque chose de particulièrement mal en ce qui concerne la conception de David. Au contraire, David reconnaît le problème qu'on appelle le péché originel. Le péché originel ne se réfère pas au péché actuel de nos premiers parents, Adam et Ève, mais plutôt à l'effet de leur péché. À cause de cette condition, l'apôtre Paul rappelle dans sa lettre aux Romains, chapitre 3, verset 10, et là il cite le psaume 14 qu'on a lu tout à l'heure, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Le péché d'Adam a amené la malédiction de Dieu sur toute la race humaine. Et nous sommes tous nés dans un état déchu, dans un état de corruption spirituelle. Nous sommes tous nés dans un état de corruption morale. Et en notant sa dépravation qu'il a héritée, David reconnaît qu'il n'a pas péché que cette fois-ci en commettant l'adultère puis le meurtre. Non, le péché était gravé dans sa nature. Il était pécheur, c'est pour cela qu'il a commis le péché. David n'a pas confessé son péché à Dieu comme si c'était un petit problème qui pourrait être facilement balayé de côté. Non, il a présenté le péché comme un défaut colossal qui est inscrit dans sa nature même. Et nous aussi, nous devons réaliser que le péché est le grand problème de notre vie. Le péché habite notre nature, tout comme le sang coule dans nos veines. Et nous avons besoin d'une solution radicale, d'un nettoyage complet. Nous avons besoin de naître de nouveau, d'être renouvelés. Nous sommes indignes de Dieu, bien en deçà de ses intentions, de ses attentes. Pire encore, nous sommes des transgresseurs de la loi de Dieu. Notre péché nous a amenés sous la juste condamnation de Dieu et il n'y a aucune réparation possible de notre part. La repentance exige la confession du péché, reconnaître que nous sommes pécheurs par nature. Deuxièmement, la repentance repose sur la miséricorde de Dieu. Si la confession du péché est nécessaire, la confession du péché est nécessaire à la repentance de la même manière que l'algèbre est une condition préalable pour les mathématiques supérieures. C'est en faisant face à la réalité de notre péché, à la honte de notre culpabilité, que nous sommes amenés à vouloir la repentance. Malheureusement, beaucoup de gens ne passent pas de la conviction du péché à la vraie repentance, parce qu'ils ne réalisent pas ce deuxième point, que la repentance repose sur la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est peut-être la chose la plus importante pour nous, pour connaître la repentance. L'obligation de se repentir devant Dieu dérange beaucoup de personnes parce qu'ils supposent que la repentance repose sur leurs propres œuvres. Pour ces personnes, la repentance signifie qu'elles doivent changer de vie avant de pouvoir venir à Dieu. Le problème est que ces personnes ne peuvent jamais se changer suffisamment parce que le pouvoir du péché est tout simplement trop fort. Les griffes du péché sont bien enfoncées dans la chair du pécheur, de sorte qu'elles le tiennent dans une servitude dont il ne peut échapper par ses propres forces. Comme David l'a réalisé, le péché corrompt la nature même du pécheur, de sorte que ses désirs sont tournés vers le mal. Et le pécheur qui se repose sur lui-même, sur ses œuvres, est souvent découragé, souvent mécontent. Et il pense que Dieu est le problème plutôt que la réponse. Si le pécheur est son péché, il est Dieu encore plus. Ce Dieu qui exige une repentance que l'homme ne peut pas accomplir. C'est l'expérience de tout croyant, mais en particulier du réformateur allemand Martin Luther. Avant qu'il ne soit amené à découvrir la grâce de Dieu en Jésus-Christ, Luther était terrifié par la culpabilité du péché. Il confessait régulièrement son péché. En fait, les biographes disent qu'il rendait fou les prêtres avec des sessions interminables dans le confessionnal. Et après chaque confession, Martin Luther voulait faire mieux. Mais il découvrait qu'il ne pouvait pas. Et un jour, quelqu'un a demandé à Luther, avant sa conversion, « Martin, est-ce que vous n'aimez pas Dieu ?» Et Luther, très honnêtement, a répondu, « Aimer Dieu ? Non, je le hais. » Et beaucoup de gens sont comme lui aujourd'hui. Alors remarquez comment David commence le psaume, verset 3. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » Et ça fait toute la différence pour le pécheur qui est convaincu de son péché. C'est la différence entre la tristesse et la joie, le désespoir et l'espérance, la colère ressentie et l'adoration aimante de Dieu. La repentance ne dépend pas de nos œuvres. David le savait. La repentance dépend de la miséricorde de Dieu. Un commentateur écrit ceci. La miséricorde est la seule base de toute approche de Dieu par les pécheurs. Nous ne pouvons pas venir à Dieu sur la base de sa justice. La justice nous frappe de peur et nous pousse à nous cacher de lui. Nous ne sommes pas attirés à Dieu par sa sagesse. La sagesse ne nous enhardit pas, bien que nous soyons dans l'admiration de cette sagesse. L'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence ne nous attirent pas non plus à Dieu. La seule raison pour laquelle nous osons venir à Dieu et que nous osons espérer une solution à notre problème de péché, c'est sa miséricorde. Voilà la bonne nouvelle que l'Église de Jésus-Christ annonce au monde. Dieu a pitié des pécheurs qui ont besoin de se repentir. Le psaume 86, verset 5 dit « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoque. » La miséricorde de Dieu se manifeste de manière très claire avec la venue du Seigneur Jésus-Christ. Pensez à toutes les fois dans les évangiles où nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui guérissait des foules, des multitudes de malades. Voilà la miséricorde de Dieu pour un monde malade, un monde pécheur. Marc, dans son évangile, parle d'un lépreux. C'était le symbole ultime de la corruption de l'humanité. Et ce lépreux s'est approché du Seigneur Jésus-Christ. Et bien que tous les autres se soient dispersés quand ils ont vu le lépreux, le Seigneur Jésus-Christ est resté. Et le lépreux, tombant à genoux, a supplié le Seigneur, lui a dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Marc nous dit la réponse du Seigneur Jésus-Christ en Marc 1, versets 41 et 42. « Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Voilà la miséricorde qui est prête à recevoir le pécheur, à le guérir, afin qu'il puisse venir à la repentance. Bien que le péché soit beaucoup plus fort que notre force de volonté, ce n'est que la deuxième plus grande puissance au monde. Parce qu'il y a une puissance plus grande. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui s'étend au pécheur qui crie à lui, comme David le fait ici. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » On ne saurait trop insister sur l'importance de cette vérité de l'Évangile. Si on veut éliminer l'obscurité, on ne peut le faire qu'en faisant briller une lumière forte. Et la lumière qui rend possible notre repentance, c'est la miséricorde de Dieu. Quand on voit combien Dieu est prêt à nous sauver, à nous purifier, alors on réalise que Dieu est la réponse et non pas le problème. Et donc la repentance, ça ne signifie pas abandonner à contre-cœur les péchés que nous aimons, que nous chérissons, mais c'est plutôt voir nos péchés comme les mauvais esclaves, les mauvais maîtres qu'ils sont, et se tourner dans la foi à Dieu pour recevoir cette miséricorde, cette grâce qui nous rend libres. Cela nous amène au troisième point, la repentance trouve la purification dans le sang de Christ. Quelqu'un peut se poser la question, comment un Dieu saint peut-il faire miséricorde aux pécheurs qui sont coupables? Si Dieu est un juge juste, et si nous avons transgresser sa loi, que nous sommes donc coupables. Comment Dieu peut-il simplement effacer la liste de nos péchés? La réponse se trouve dans ce troisième point qui montre que la repentance trouve la purification dans le sang de Christ. Et David prie pour être lavé. Verset 9, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » L'hysope était une plante spongieuse qui poussait dans les crevasses et souvent sur les murs. Et en raison de sa forme et de sa texture, l'hysope a été utilisée comme une petite brosse. Dans le système sacrificiel d'Israël, cette brosse en hysope était utilisée pour asperger le sang du sacrifice sur celui qui devait être purifié. Et on se rappelle du lépreux qui est venu au Seigneur Jésus-Christ. Lépreux qui était une image de la corruption totale par le péché. Et on doit noter que la brosse en hysope a été particulièrement mentionnée dans le rite de purification pour ceux qui étaient atteints de la lèpre et pour en vue de leur purification. Et ce rituel, on le lit en Lévitique chapitre 14. Ce rituel impliquait deux oiseaux que l'on prenait vivants. Le premier était ensuite tué. Cette brosse en hysope était trempée dans le sang du premier oiseau et qui a ensuite été aspergée sur le lépreux pour être purifié. Et c'est ce que David crie, et c'est ce que David prie au verset 9. « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. » Le deuxième oiseau restait vivant. Il était trempé dans le sang du premier oiseau. Il a été ensuite relâché pour le laisser s'envoler et partir vers le ciel. Et cela symbolisait l'élimination complète de la culpabilité et du péché. L'oiseau s'envolait avec la tache rouge sur son corps jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être vu. Le psaume 103, verset 12 nous dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu éloigne de nous nos transgressions. » Le rituel de purification se terminait par le lavement du corps, des vêtements de l'ancien lépreux, tout comme David le prie ici au verset 9. « Lave-moi. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Et ce rituel, bien sûr, prédit l'œuvre expiatoire du Seigneur Jésus-Christ. Tout comme le premier oiseau, le Seigneur Jésus-Christ a été mis à mort pour notre péché. Il est mort pour subir la condamnation pour nos péchés, nous qui étions coupables, qui sommes coupables par nature. Et quand nous mettons notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, dans sa mort, son sang nous est appliqué pour que nous soyons lavés, purifiés. Mais le Seigneur Jésus-Christ a aussi enlevé notre culpabilité, tout comme ce deuxième oiseau s'est envolé avec la tache rouge sur lui. L'apôtre Jean explique en 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et ce nettoyage est complet dans les moindres détails. David prie au verset 9, « Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » C'est une pureté que nous pouvons difficilement concevoir parce que nous avons très peu d'expérience pratique d'une telle pureté. Déjà, la neige, pour nous, elle paraît être très blanche. Et là, c'est plus blanc que la neige. Si nous venons à Dieu par la foi en Jésus-Christ, la Bible nous affirme que nous sommes parfaitement purifiés dans le sang de l'agneau, lavés dans le sang de l'agneau. Encore une fois, Jean, 1 Jean 1, verset 7, « Le sang de Jésus, son Fils, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. » Mais si certaines personnes trouvent difficile d'admettre leur péché, d'autres se condamnent trop facilement. Et ces personnes trouvent difficile de croire que quelque chose pourrait vraiment les purifier. Mais Dieu dit dans sa parole que si l'on vient à Christ pour être lavé, son sang ne fera pas de nous un brun terne, mais un blanc brillant, plus brillant que la neige. Ésaïe 1, verset 18, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Est-ce que nous avons trouvé cette purification dans le sang de Christ? Même dans cette salle où on est très peu nombreux, en présentiel, il y a des grands pécheurs qui ont offensé Dieu d'une manière grossière, d'une manière terrible. On a sans doute menti, calomnié, utilisé notre langue pour semer la discorde, pour détruire. On a triché, on a blasphémé le nom de Dieu. On est coupable de ce genre de péché. Et ceux qu'on n'a pas commis, on les a commis dans le désir de notre cœur. Nous sommes par nature des rebelles qui sont loin des exigences de Dieu. Pour certains, notre besoin est de confesser que nous avons péché contre Dieu, que nous sommes condamnés à juste titre. D'autres sont écrasés sous le fardeau des péchés non pardonnés. Mais si l'on regarde à Jésus-Christ, on trouvera que Dieu nous a aimés. Nous a tellement aimés pour envoyer son propre Fils, porter la culpabilité de nos péchés et souffrir à notre place, être puni à notre place. Et le Seigneur Jésus nous transforme et nous rend plus blancs que la neige. Il nous revêtira de la robe parfaite de sa propre justice, une justice qui est parfaite. Il a cloué la liste de nos péchés sur la croix. Il nous a rachetés par son sang précieux. La repentance trouve la purification dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Quatrième point, la repentance produit une nouvelle obéissance par la puissance du Saint-Esprit. La vie chrétienne ne se termine pas avec la repentance. Elle commence. Mais de même, la repentance trouve non seulement la purification dans le sang de Christ, mais elle produit aussi une nouvelle obéissance dans la puissance de l'Esprit de Dieu. La repentance n'est pas seulement se détourner du péché, c'est aussi marcher avec Dieu dans la sainteté. David prit cela dans les versets 12 à 14. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » La supplication de David montre toutes les bénédictions que le péché nous vole. La pureté de cœur, la fermeté de l'esprit, la joie du salut. Ces mêmes bénédictions sont restaurées par la repentance. Notre repentance n'est pas complète sans elle. En effet, la repentance n'est pas sincère à moins qu'elle ne produise la joie que donne l'Évangile, mais aussi la résolution de vivre pour Dieu. Le salut est par la grâce seule. Nous ne vivons pas une vie, nous ne recherchons pas la sainteté pour atteindre la repentance. Mais celui qui se sait purifié par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, qui se réjouit dans ce don inestimable du salut, désire croître dans la grâce, par gratitude envers Dieu. On a l'exemple, il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait citer, mais je retiens celui de Zachée, ce principal percepteur des impôts de Jéricho, qui s'était enrichi en trompant, en volant. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu et que Zachée est venu à la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, il était naturel pour lui de se réjouir en restituant ce qu'il avait volé. Luc 19, verset 8. « Voici, Seigneur, dit Zachée, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et David avait des motivations similaires. Son péché contre Bathsheba a eu des conséquences terribles pour la vie de toute la nation. En tant que roi, le mauvais exemple de David a retenti dans tout le royaume. Et David prie donc pour l'Esprit de Dieu, non seulement pour retrouver une santé spirituelle, mais aussi pour qu'il puisse s'occuper de réparer une partie du mal qu'il a fait. Au verset 15, il désire enseigner les voies de Dieu à ceux qui les transgressent, dans le but que les pécheurs reviennent à toi. Dans les versets 16 et 17, on a le désir de David de chanter la louange de Dieu. David veut que la Jérusalem qu'il a détruite par son péché soit édifiée par sa piété. Il veut que la vie spirituelle de la nation soit restaurée, comme il le conclut dans les versets 20 et 21. « Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. » Les versets 18 et 19 font une déclaration vitale qui s'applique à chaque pécheur qui se tourne vers Dieu, qui veut maintenant lui redonner ce qui lui est dû. David écrit, « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Voilà une déclaration importante au sujet de la religion dans l'Ancien Testament. Dieu n'a jamais été intéressé par de simples rituels. Il a toujours voulu la réponse du cœur par la foi. Et ainsi David a voulu offrir un cœur qui maintenant était transpercé par la gravité du péché, malléable entre les mains de Dieu, sensible à la vérité de Dieu. David dit au verset 19, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » De même, l'offrande la plus élevée, la meilleure que nous puissions offrir à Dieu, c'est notre cœur qui est brisé par le péché, mais qui est aussi sensible à la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Le véritable fruit de la repentance n'est rien de moins que cette offrande à Dieu, avec le résultat inévitable de la restitution et de l'obéissance à la parole de Dieu. Mais dernier point, la repentance, c'est un mode de vie. On se trompe si on pense que la repentance est quelque chose que l'on fait seulement pour devenir chrétien, au début de la vie chrétienne. On se trompe aussi si on pense que la repentance est seulement pour les chrétiens qui ont péché de manière grossière, comme David l'a fait dans cet adultère avec Bathsheba. La vérité sur la repentance, c'est ce que Martin Luther a proclamé comme la toute première de ses 95 thèses. Et cette première thèse dit, en disant « faites pénitence » ou « repentez-vous », notre Maître et Seigneur Jésus-Christ a voulu que la vie entière des fidèles fût une pénitence ou fût une repentance. C'est la première thèse de Martin Luther dans sa série des 95 thèses. Luther argumentait contre le système mécanique de la pénitence enseigné alors, mais aussi aujourd'hui, par l'Église catholique romaine. La repentance n'était rien de plus que de dire quelque « Notre Père » et « Je vous salue Marie » après avoir quitté le confessionnal ou après avoir remis de l'argent pour acheter une indulgence. Luther argumenterait tout aussi vigoureusement aujourd'hui contre l'attitude moderne qui affirme que la repentance est une nécessité désagréable qu'il faut faire une fois et ensuite mettre derrière soi. Alors qu'au contraire, la repentance, c'est le mode de vie dans lequel les croyants vivent humblement toute leur vie. La repentance est caractéristique de toute la vie, ce n'est pas l'action d'un seul moment. La repentance exige la confession du péché. Elle s'appuie sur la miséricorde de Dieu. Elle trouve la purification dans le sang de Jésus-Christ. Elle produit une nouvelle obéissance par l'Esprit-Saint. Et ça doit être l'expérience quotidienne du croyant. Et on peut appliquer cela, cet appel à la repentance dans un certain nombre de domaines. On pourrait commencer par l'adoration. Une des pires choses qui arrive quand les gens tombent dans le péché, c'est qu'ils cessent d'adorer Dieu. Ils oublient qu'ils peuvent apporter leur péché à Dieu, qui, dans sa miséricorde, offre de les pardonner, offre de les purifier. Un problème presque aussi grave, c'est quand les gens viennent à Dieu pour l'adoration, mais qu'ils viennent sans repentance. Le psaume 51 nous dit « Comment approcher Dieu ?» en décrivant l'attitude que nous devrions avoir dans l'adoration. La manière de commencer l'adoration n'est pas de venir dans notre propre justice, mais de venir avec les paroles de David. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » Nous devons reconnaître que nous venons en tant que pécheurs. Nous venons à un Dieu de miséricorde et nous osons nous approcher par le sang de Jésus-Christ qui purifie. Nous venons offrir des cœurs contrits à Dieu en regardant à l'aide de l'Esprit-Saint. La repentance décrit également la façon dont nous devrions étudier la parole de Dieu et chercher à grandir dans la vie chrétienne. Le problème avec beaucoup de théologiens professionnels, c'est qu'ils n'étudient pas avec un esprit repentant. La repentance est la façon dont nous donnons notre esprit à Dieu. Comment devrions-nous approcher notre Bible pour recevoir la parole de Dieu? Comment devrions-nous préparer un sermon pour ceux qui enseignent? La réponse est en ouvrant humblement notre cœur, en étant désireux de faire corriger nos erreurs par la parole, de construire notre foi par la parole. Une des raisons pour lesquelles tant de personnes obtiennent si peu de la prédication qu'ils entendent, c'est qu'ils sont assis devant le prédicateur avec des cœurs qui ne sont pas brisés. Ils ont déjà décidé ce qu'ils veulent croire. Ils ne sont pas prêts à céder à la parole de Dieu. On devrait toujours approcher la parole de Dieu en confessant, en reconnaissant notre péché. Le péché qui touche même notre pensée, la corruption qui nous éloigne de la vérité. Et puis on devrait demander ensuite la miséricorde de Dieu, plaider la purification du sang de Christ, prier pour que l'aide de Dieu par l'œuvre éclairante de son esprit vienne illuminer notre cœur et notre esprit. Tous les croyants, et en particulier ceux qui enseignent, doivent approcher la parole de Dieu dans la repentance. Et pour terminer, comment devrions-nous aborder les défis quotidiens, les défis auxquels nous devons faire face tous les jours, encore une fois, dans la repentance, couplée avec la foi. On devrait recevoir chaque épreuve, chaque opportunité, en tant que pécheur, coupable de transgression, digne d'être condamné. Et on découvrirait que la repentance est un remède efficace contre l'apitoiement de soi. On devrait alors se souvenir de la miséricorde de Dieu. Oui, nous sommes pécheurs, mais en Christ, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a montré sa miséricorde. Il est disposé à recevoir nos prières. Il est disposé à nous aider. On devrait offrir nos cœurs, nos œuvres, notre travail à travers le sang de Christ qui purifie, sans se laisser intimider par l'imperfection de nos œuvres, en demandant à Christ de les recevoir avec sa bénédiction et en demandant à Dieu que l'Esprit nous donne le pouvoir de lui faire confiance, le pouvoir de marcher avec lui au quotidien. Si on offre toute notre vie dans la repentance et la foi, Dieu fera plus que simplement nous purifier et nous pardonner. Il fera une œuvre à travers nous. C'est la conclusion du psaume. Le Seigneur fera, dans les mots du psalmiste, dans les mots de David, le Seigneur fera prospérer Sion. Il bâtira les murs de sa sainte ville. Dieu obtiendra des sacrifices qui lui plaisent, des adorateurs qui viennent à lui en esprit. Et en vérité, de véritables adorateurs qui s'approchent de lui par le Seigneur Jésus-Christ. La repentance unie à la foi, c'est le mode de vie du croyant. C'est sa façon de vivre, la manière dont il va avancer sur le chemin de la vie, la manière dont il va rendre gloire à Dieu. David nous laisse un exemple, que Dieu nous aide à suivre cet exemple, qui nous aide à ruminer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.